Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info du lundi 18 février 2013 avec Michel et Jean-Pierre dans les studios et Robert en duplex téléphonique. Rubrique internationale de ce Canu Info, bien sûr, par quel sujet ouvrir? Michel, as-tu une préférence? Si t'en as pas, je vais t'en donner une.
Préférence, non, j'ai deux, trois sujets, mais oui, donne-moi ta préférence.
Le Kosovo.
Le Kosovo, qui fête ses 5 ans d'indépendance.
Absolument. Ouais.
D'accord.
Dans une joie mitigée, quoi, et puis dans une situation qui est tout sauf stabilisée, reconnue par une centaine de pays seulement, réfutée par les grands organismes internationaux sportifs, et puis une division du territoire qui est toujours pas réglée, avec la plus grande partie des gens qui voudraient se rattacher à l'Albanie, les Serbes bien entendu pas du tout, qui s'accrochent au territoire et veulent garder de l'autonomie de leur côté. Mais tu vas peut-être nous dire des choses plus précises encore.
Oui, tu as décrit assez bien la situation du Kosovo indépendant, donc 5 ans d'indépendance, mais toujours pas de reconnaissance internationale digne de ce nom, malgré des parrains de prestige. Hein. L'Union européenne, moins 5 pays membres, à savoir l'Espagne, la Slovaquie, la Roumanie, la Grèce et Chypre. Et surtout les États-Unis d'Amérique, hein, le Canada, enfin n'en parlons pas, enfin du gros et du beau, quoi. Mais ça n'a pas suffi donc à faire effet boule de neige et notamment le Kosovo qui est un État donc où la majorité de la population est musulmane, hein, un État en Europe. En plus, n'a pas eu l'adhésion de la plupart des pays donc musulmans. Chose étonnante, mais bon, comme on l'avait déjà dit à ce micro il y a aussi quelques temps. Donc avant tout, le précédent du Kosovo, c'est la conscience des États que cette indépendance donc a été acquise par la force, en s'asseyant un peu sur le droit international, et aujourd'hui il y a bien des pays qui se posent la question, si demain je reconnais moi le Kosovo, peut-être effectivement on s'en servira aussi de préalable pour venir chercher des poux concernant mon intégrité territoriale. Et tout le problème du Kosovo, il est là. Alors là, c'est pour la partie donc diplomatique, hein, au point mort. Ensuite, au niveau économique, on en parle plus souvent, mais c'est une catastrophe, hein. 50% de la population officiellement est au chômage, donc c'est pas rien. La corruption est généralisée. Rappeler un peu que on a officialisé donc les membres de l'UCK, à commencer par Hashim Tachi, aux fonctions du Kosovo, et on sait bien que les membres de l'UCK, donc organisation donc indépendantiste des Albanais du Kosovo, s'appuyaient sur des structures claniques et mafieuses, et au jour d'aujourd'hui on en est aussi au règlement de comptes inter-albanais, je veux dire, du Kosovo. Preuve en est, juste pour ceux qui suivent un peu l'actualité lyonnaise et le nombre de demandeurs d'asile, le nombre d'Albanais du Kosovo, par exemple, qui demandent l'asile sur Lyon, n'a jamais été aussi fort. Hein. Rien à voir avec les années de pré-bombardement donc des forces de l'OTAN en 98 ou juste après. C'est-à-dire que pour eux, effectivement, la situation est loin d'être stabilisée, et il suffit juste que vous faites partie du clan d'en face, que vous ayez eu des fonctions dans l'administration du temps de la Yougoslavie, pour que avec ce nouveau gouvernement quasi mafieux, vous n'ayez aucune espèce de chance donc de faire votre vie correctement. Donc le Kosovo, c'est aussi ça, hein, et soutenu à bout de bras donc par l'Union européenne, par les Occidentaux, mais pour l'instant donc rien ne se réalise concrètement. Et pour les Serbes, la situation pour les Serbes de Serbie comme pour les Serbes du Kosovo n'est pas meilleure. C'est-à-dire aujourd'hui on se retrouve avec une population serbe au Kosovo un peu moins de 100 000 personnes qui sont restées, qui refusent complètement les institutions donc de ce nouvel État kosovar, qui refusent par exemple le programme du rectorat de Pristina et qui se font payer directement donc par Belgrade, je pense pour toute l'administration, notamment pour les Serbes du nord, hein, de Kosovska Mitrovica, donc dans le nord du Kosovo, et on est au jour de jeu un statu quo, donc une sorte de sociétés parallèles, deux nations qui se tournent le dos, très très peu de choses fonctionnent en commun, et dans le même temps il y a la pression donc de la communauté internationale à vouloir donc trouver une solution diplomatique, et pour les Serbes notamment l'Union européenne, pour le début des pourparlers pour sa future adhésion à l'Union européenne, passe par la reconnaissance du Kosovo, chose effectivement qui au jour d'aujourd'hui toute classe politique confondue est impensable, d'où la situation de blocage, hein.
Mais est-ce qu'à moyen terme, le pays va vers une partition avec les Albanais qui vont rejoindre l'Albanie, une plus grande Albanie, et puis alors, la Serbie récupérer le...
Quand on regarde, par exemple, concrètement ce nouvel État kosovar, oui, tout pousse donc à l'intégration avec l'Albanie. On vient de construire à très grands frais, par une société, du moins par un consortium américano-turc, une autoroute qui va de Pristina vers Durrës, le grand port albanais, en passant par Tirana. Les choses sont claires, c'est-à-dire que d'un point de vue économique, d'intégration, donc tous les flux de Pristina se feront vers le sud, hein, pas vers le nord, son grand voisin serbe, mais vers le sud, vers l'Albanie, à travers les montagnes. Donc on a construit une autoroute qui a coûté, mais c'était une volonté politique très très forte, donc d'intégrer
à l'Union européenne, non ?
Ah ça. Vous voyez, chère l'Union européenne, je ne sais pas si elle fait partie d'un corridor stratégique de l'Union européenne, mais en tout cas, elle a été construite par Bechtel, l'Américain Bechtel, avec donc une entreprise donc de BTP turque. Voilà où en sont les choses. Donc il est clair que le futur de Pristina, c'est se tourner vers Tirana et se tourner vers la mer Adriatique, donc pour ces échanges commerciaux, mais pas vers Belgrade. Mais à plus ou moins long terme, le problème de la région, c'est que au sud de la Serbie, hein, il reste une communauté albanaise, notamment dans la région de Bujnovac, près de chez vous, à la frontière du Kosovo, non négligeable, qui elle voudrait se rattacher donc au Kosovo. Les Serbes du Nord voudraient se rattacher à la Serbie, et dans ce cas de figure, certains parlent d'échanges, vous voyez, territoriaux, mais l'Union européenne ne veut pas en entendre parler. Là, ce serait ouvrir la boîte de Pandore une de plus, parce que les Serbes de Bosnie n'attendent qu'une chose, c'est-à-dire voilà, en gros, on leur dit que eux qui vivent sur la moitié du territoire de la Bosnie, dans ce qu'on appelle la République Srpska, on leur interdit donc l'intégration avec Belgrade, hein, sous prétexte de préserver la souveraineté de l'État de Bosnie. Et pourquoi pas, mais toujours est-il que pour eux le président du Kosovo ne s'explique pas. Le Kosovo n'était pas un État ou une république à part entière, c'était une région autonome propre donc à la Serbie du temps, enfin l'autonomie a été donnée du temps de Josip Broz Tito, et donc on voit bien le préalable, c'est-à-dire que les Européens craignent vraiment de réenclencher le processus de désagrégation. N'oublions pas non plus par exemple qu'en Macédoine, quasiment la moitié de la population albanaise, hein, le taux démographique de la population albanaise dans l'Ouest est nettement supérieur à la population slave orthodoxe, et le temps d'une décennie ou deux, on sait que les Albanais donc seront la majorité relative donc en Macédoine, et eux aussi ont cette volonté d'intégration avec les Albanais du Kosovo et d'Albanie. Donc les choses restent quand même très tendues dans
l'histoire
la région.
Des Balkans n'est pas terminée, hein.
Malheureusement non.
Voilà, Robert, tu voulais intervenir là-dessus ou sur autre chose ?
Peut-être pas sur ce sujet, mais sur quelque chose qui a trait à la situation, à la conjoncture internationale, et surtout à propos des méfaits de l'OTAN, plus ou moins chapeautée par l'Europe et puis l'ONU, hein, c'est un peu ce dont on vient de parler là, sur le démantèlement de l'ancienne Yougoslavie, ses conséquences. Et je voulais simplement signaler que hier se tenait à N'Djamena une rencontre presque d'un autre type, on va dire, puisque c'était comme le sommet de la communauté des États sahélo-sahéliens. En gros, c'est à peu près 25-30 États qui sont au-dessus de cette ligne Sahara-Sahel. Et cette organisation qui porte le nom de Sansad, la Sansad, hein, donc avait été créée, paradoxalement, avait été créée par Kadhafi une quinzaine d'années à peu près. Kadhafi, effectivement, il arrive à la fois avec son désir de diriger ça et aussi l'argent. Et effectivement, c'est une structure qui a bien fonctionné pendant toute cette période et qui pratiquement était donc complètement éteinte depuis 3 ans, depuis que l'OTAN et puis les Occidentaux ont décidé qu'il fallait assassiner Kadhafi, le chasser d'Afrique. Donc ce sommet, c'est assez paradoxal, parce que ce sommet s'est tenu hier samedi, donc à N'Djamena. Alors on pourrait se demander, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui osera faire une allusion à ce qu'a été effectivement ce grand moment de cette création et puis du développement de cette structure qui avait pour viser à la fois la sécurité, la stabilité, mais aussi le développement économique et écologique dans la région. Bon, j'ai trouvé simplement quelques notes d'information données par RFI écrit. C'est pas la presse montre. La presse se montre très discrète sur cette réunion, et pour cause, hein, puisque effectivement, elle faisait aussi le constat des conséquences des décisions de géopolitique de l'ONU et puis de l'OTAN et des pays comme la France et comme la Grande-Bretagne. Il y avait quand même donc à N'Djamena hier samedi, il y avait une vingtaine, avant-hier samedi, il y avait une vingtaine de pays, et ils ont pris quand même 2 décisions importantes qui devraient être ratifiées par les autres pays. Tout d'abord, la création d'un conseil permanent pour le développement durable, chargé de la lutte contre la pauvreté. On fait le rappel que la pauvreté faisant le lit du terrorisme, etc. Et un conseil permanent de sécurité pour bien effectivement mener à bien cette élimination des terroristes au Sahel et au Sahara. Évidemment, cette réunion avait aussi en toile de fond la situation au Mali. Alors discrètement, on a remercié, dans cette réunion, on a remercié la France pour. Alors ce sont les mots de Idriss Déby, qui présidait, puisque ça se passait à N'Djamena, et qui a dit nous devons une intime reconnaissance à la France. Une intime reconnaissance à la France, discret, d'avoir sauvé le Mali, mais, a-t-il ajouté, mais nous ne pouvons pas nous complaire dans cette situation 50 ans après les indépendances. Donc, on dit merci la France, mais attention, on ne souhaite pas que vous recommenciez une opération néocoloniale, même bon, si même un certain nombre d'entre eux sont plus ou moins complices de ce qui pourrait être une opération néocoloniale. C'est intéressant, mais ils n'ont pas de sous, c'est-à-dire qu'ils ont simplement réussi à débloquer 500 millions de francs CFA. Donc le franc CFA, ça vaut pas grand-chose, hein, en faveur. Donc ces francs CFA, c'est pour la MISMA, c'est-à-dire la Mission Internationale de Soutien pour le Mali. Et on se doute bien, et sans doute dans la pensée profonde non écrite, que si effectivement Kadhafi était encore de ce monde, ben, c'est pas 500 millions de francs CFA, mais c'est sans doute au moins 5 milliards qui auraient été mis. Mais il est vrai que si on réécrit l'histoire, tout ce qui se passe au Mali, avec une Libye toujours dominée par Kadhafi, ce qui s'est passé au Libye, ce qui serait passé au Mali ne se serait sans doute pas passé comme c'est la situation aujourd'hui. Donc il faut prendre en compte ces dégâts qui sont finalement les dégâts des décisions occidentales, onusiennes et otanesques.
Une information internationale qui est quand même plutôt une bonne nouvelle, c'est la victoire de Correa en Équateur, oui, au premier tour. Oui. Hein, 57% à peu près des voix, nous dit-on. On crée élu jusqu'en 2017. Troisième mandat, 49 ans, cet homme-là, qui fait du social avec l'argent du pétrole, ce qui a évidemment l'heure d'énerver les banquiers, dont son challenger principal, qui n'a fait que 23%. Il a su, alors on l'accuse de populisme, forcément, ben, pendant qu'on en est là, on peut dire un mot d'un autre populiste célèbre, c'est Chavez qui est rentré à Caracas, donc après 2 mois après sa dernière opération à Cuba, et qui maintenant est toujours hospitalisé, mais au Venezuela, ce qui satisfait aussi pas mal les Vénézuéliens.
Alors, ce qui est important, c'est que Correa représente, on va dire, le groupe de ceux que l'Occident et les Américains et le monde capitaliste craignent le plus. C'est le petit groupe, notamment tous ceux qui sont rassemblés au sein de l'ALBA, c'est-à-dire l'Alliance Bolivarienne, avec, naturellement, avec Correa, avec Chavez, avec Morales en Bolivie, avec Mujica en Uruguay, et Ortega au Nicaragua. Alors d'accord, ce sont pas les grands pays, ce sont pas les pays émergents, mais ce sont des pays qui disposent de ressources minières ou pétrolières comme l'est le Venezuela, et qui donc constitue une espèce un effet d'entraînement, d'attraction pour les peuples brésiliens, chiliens, argentins, qui sont dans une dynamique progressiste, mais qui effectivement ne s'attaquent beaucoup moins frontalement au capitalisme que le font ces pays-là. Et cette victoire importante et nette de Correa, effectivement, de ce point de vue-là, est rassurante.
Michel, là-dessus.
Oui, juste pour rajouter que, avant tout, la victoire de Correa, comme celle de Chavez, c'est la prise de conscience donc des Sud-Américains qu'ils pouvaient donc se défaire de la mainmise des États-Unis. Pendant très longtemps, donc tout était dicté par Washington, tout passait par Washington. L'Amérique du Sud était la chasse gardée des États clients. Avec les premiers soubresauts donc de indépendantistes, hein, souverainistes, hein, lancés par Chavez, on a vu Lula au Brésil ça, aussi vouloir émanciper donc le Brésil de la tutelle américaine. On a vu l'Argentine refuser donc de payer sa dette en l'état, puis ça a fait effet boule de neige à des niveaux divers, hein. Certains de ces gouvernements sont plutôt gauche, centre-gauche, d'autres sont beaucoup plus à gauche. Mais toujours est-il d'une prise de conscience que, en mettant en place des dirigeants volontaristes, on peut changer la politique. Et c'est le cas aussi pour l'Équateur de Correa. Encore un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. Mais ça n'empêche pas les gens de descendre et voter massivement parce qu'ils ont vu donc ces 5 dernières années leur état tout de même s'améliorer, l'état effectivement de la population. Ils ont vu cette politique volontariste où jusqu'à présent on leur dit c'était pas possible, c'est pas possible, où on pouvait effectivement demander aux multinationales qui exploitent les gisements pétroliers en Équateur de participer, donc de payer beaucoup plus de royalties. Hein. Pendant très longtemps on a dit mais ils vont partir, on pourra pas. Et ben de fait, oui, ils sont tellement contents de pouvoir exploiter ce pétrole, ils dédaignent pas payer quelques obols en plus. Donc avant tout, voilà, c'est ça, c'est la prise de conscience, on l'a vu aussi au Venezuela, et ça fait effet boule de neige, que on peut, donc s'il y a des élections transparentes, dignes de ce nom, si les gens peuvent massivement descendre, ils ont donc maintenant compris qu'ils pouvaient aussi, eux, jouer aussi sur la destinée donc, de leur pays.
Voilà, pour cette bonne nouvelle électorale, il n'y en a pas si souvent. Un autre sujet, Michel, on a un peu l'embarras du choix.
On parlait de l'anniversaire du Kosovo. On peut aussi parler de l'anniversaire de Bahreïn. Donc, c'est étonnant. Enfin, ce petit île-état de Bahreïn qui fêtait donc jeudi dernier ses 2 ans du début de son insurrection, qui a été réprimée quand même grâce notamment à la coopération des États du Golfe, à l'Arabie Saoudite. Hein. Et aujourd'hui, donc, les gens ont voulu de redescendre dans la rue. Donc, quand je dis les gens, hein, c'est principalement la population chiite qui forme la très grande majorité donc de cet État, plus de 70%. Et bien entendu, les accès à la capitale leur étaient totalement interdits. Donc, ils ont manifesté donc sur les abords donc de la ville, proche donc de quelques villages chiites, mais ça n'a pas empêché là aussi d'avoir la police qui est sortie. Il y a eu 2 morts, des dizaines de blessés, et on n'en parle pas plus que ça. Chose étonnante, hein. On a tendance là aussi donc à se préoccuper des droits de l'homme à géométrie variable, et étonnamment là effectivement où ça conforte nos intérêts. S'il faut se défaire du régime de Bachar al-Assad, soit que ça soit effectivement par la mise en place d'un régime plus ou moins islamiste, mais qui puisse, bon an mal an, défendre nos intérêts géostratégiques dans la région. Par contre, à Bahreïn, oui, on a effectivement un califat, donc membre de cette famille, qui a fait aussi des émules hein, partout dans le Golfe, hein, originaire d'Arabie Saoudite, et qui est aussi présent au Koweït par le cousinage et au Qatar. Et on veut surtout pas toucher donc à cette échelle. Est là, et bien la population donc chiite qui forme la majorité n'a pas son mot à dire, et là aussi dans le silence médiatique le plus total.
Voilà, Robert, la Syrie, le Pakistan, les USA, t'as peut-être envie de parler de l'un de ces sujets.
Je ne sais pas, j'ai pas entendu ce dont a traité Michel.
Il a parlé de Bahreïn.
Non, moi je voulais faire un petit détour sur l'Europe. Bien sûr, bon, Syrie pourrait effectivement évoquer la situation qui évolue en ce sens que maintenant il y a ce rapport de la commission d'enquête de l'ONU que l'on dit par ailleurs indépendante. C'est d'ailleurs assez bizarre, ça semble assez contradictoire qu'on peut être une commission de l'ONU puis une commission indépendante, mais à la fois, bon, peu importe. Et cette commission est animée par un personnage qui a fait pas mal de dégâts sur les dossiers des Balkans, c'est Carla Del Ponte. Et par contre, elle, dans son rapport, elle renvoie presque dos à dos le gouvernement de l'Assad et puis les rebelles,
bleu, il déconne
au titre que les deux côtés ont commis des crimes
monstrueux, qui donnait.
Et que donc il faudrait que ça cesse. C'est le médiateur Brahimi a repris du service, et j'ai lu que il allait tenter une énième fois de rapprocher, enfin de créer une réunion. Alors
il rencontrait à Bruxelles les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, oui, aujourd'hui, hein, c'est ça?
Oui, mais effectivement, ils ont simplement prolongé de 3 mois les sanctions qui sont déjà assez lourde pour les Syriens, mais sans rien ajouter, notamment en n'ajoutant rien sur la demande d'une fraction des rebelles qui voudraient être qu'on leur fournisse des armes, et ça pour l'instant c'est négatif. On ne se fait pas d'illusions, on sait que les armes elles entrent aussi bien pour le pouvoir légal que pour les rebelles, mais c'est officiellement ça ne doit pas se dire ni être analysé comme tel.
Tu voulais parler de l'Europe ?
Oui, l'Europe, parce que l'Europe, surtout l'Europe sociale, l'Europe qui bouge, et tous les jours, presque, les manifestations anti-austéritaires, se succèdent et, j'allais dire, se ressemblent au meilleur sens du terme. C'est souvent catégoriel, mais c'est aussi intercatégoriel. C'est en Espagne, c'est au Portugal, et puis c'est toujours aussi en Grèce. Moins que là, bien qu'en Grèce, ça n'apparaît plus comme les grands mouvements que la Grèce a pu connaître, mais ces mouvements en Espagne et au Portugal sont impressionnants, à la fois par leur nombre, par la qualité des revendications, qui sont à la fois, par exemple, quand hier ou avant-hier, je crois, c'est en Espagne, des milliers de blouses blanches, c'est-à-dire les gens des hôpitaux, sont descendus dans la rue, pour dire non à la privatisation de la santé, c'était quelque chose de fort. C'était un grand moment de cette lutte en Europe contre la privatisation des biens communs, des services publics tels qu'ils se poursuivent un peu partout, au nom de « il faut faire des économies, il faut rogner partout, il faut faire plaisir au Fonds monétaire international, à la Banque européenne, à l'Union européenne, etc. » la Commission européenne, la semaine prochaine, elle va sortir sa calculette, et pour chaque pays, elle va donner le là, c'est-à-dire qu'elle va dire à tel pays, pas assez d'économie, vous, il faut faire 3 milliards de plus, 5 milliards ici, 4 milliards, enfin c'est une honte. Je ne crois pas qu'il y ait un Européen qui ne se sente pas humilié par la situation dans laquelle il est. Et même ceux qui ne sont pas parmi les plus pauvres, je veux dire, un honnête citoyen des classes moyennes, s'il ne se sent pas humilié parce qu'il a vraiment vendu son âme au diable, il y a que les grands de ce monde qui eux, il y a longtemps que leur âme est vendue, et qui pour eux trouvent très bien que la Commission européenne dise à chaque pays, voilà, vous devez faire ceci, vous devez faire cela.
Voilà, Michel, un autre sujet international avant notre pause musicale.
Juste des brèves, j'ai envie de dire. Mmh. On parle de la Syrie, on évoquait la Syrie, donc faut-il lever l'embargo sur les armes ou pas? Le souci premier, on le voit bien pour la communauté dite internationale, les Occidentaux, c'est qu'aujourd'hui, lever l'embargo sur les armes, on sait très bien que sur le terrain, l'insurrection, elle est le fait, qu'on le veuille ou pas, d'islamistes. C'est le très très gros des troupes, 80% des troupes donc sont le fait de Katiba, qui sont inféodés à une idéologie qui est islamiste. On peut retourner les choses dans tous les sens. C'est pas faire de la propagande pour le régime de Bachar al-Assad, c'est pas défendre le régime de Bachar al-Assad, c'est la difficulté, juste mettre en avant la difficulté dans laquelle on se trouve aujourd'hui en Syrie. On va avoir énormément de mal à éviter donc le chaos ou le trouble qui risque de perdurer donc dans ce pays-là. Et on est de plus en plus conscient, donc les chancelleries le voient bien. D'où effectivement elles se sentent de plus en plus timorées. Elles ne savent plus comment aborder le sujet, elles ne savent plus exactement, elles veulent bien un changement de régime, mais elles voient effectivement le coût de ce changement de régime. Et dans le même temps, on voit aussi l'implication de l'Iran de plus en plus forte. Hein. Les gardiens de la révolution sont présents aux côtés de Bachar al-Assad. Un responsable, un général a été tué près de Damas lors d'un attentat. Et on voit bien que là aussi, pour l'Iran d'un point de vue géostratégique. Il faut surtout pas que le pion syrien tombe. Il faut surtout pas que cet arc chiite allant du Liban jusqu'en Iran soit rompu. Et on voit bien la situation de blocage. On voit bien aussi la Russie qui veut pas perdre ses facilités pour sa marine militaire à l'attaquer. Seul port dont elle dispose en Méditerranée pour ses forces navales. Et on voit bien donc en l'état actuel des choses, ou bien on va sur un mal pour un mal, ou bien pour une partition totale donc de ce pays, de cette région. Et juste pour rebondir en parlant de la Syrie, sur ce qu'est aujourd'hui l'Irak, hein, puisque encore ce week-end, un attentat, plus de 80 personnes sont mortes dans plusieurs...
Irak ou Pakistan?
Pardon, Irak, je parle de l'Irak, et du Pakistan aussi, hein, mais de l'Irak, donc dans différents quartiers de Bagdad, mais aussi dans le nord du pays, à Mossoul, et tout ça dans un contexte où le gouvernement de Maliki, chiite, est toujours très contesté. Les manifestations sont quasiment toutes les semaines, et où il n'y a plus rien en commun, donc entre les communautés chiites et sunnites dans ce pays-là. Donc voilà, on a laissé un champ de ruines derrière nous, quand je dis nous, hein, nous occidentaux, c'est au nom de nos valeurs hein, qu'on a fait tout ça. Hein. Et on s'apprête à en faire de même demain pour la Syrie, et on va continuer. Ne parlons pas de la Libye, hein, tout à l'heure on l'évoquait, mais la Libye est tout sauf un État aujourd'hui.
Voilà, on pourrait dire d'autres choses. Je vais dire juste une brève, cette information qui nous vient des États-Unis, que Obama préparerait une loi pour légaliser les immigrés présents depuis 8 ans sur le territoire. Ça concernerait, paraît-il, 11 millions de personnes. Alors c'est une loi qui, évidemment, est de démocrate et que les républicains fustigent avant même qu'elle leur soit présentée. Mais il est vrai que Obama a été élu avec 70% des voix hispaniques, et c'est peut-être un renvoi d'ascenseur qui s'impose à lui, en même temps que c'est sûrement aussi dans sa ligne personnelle politique, ce genre. Peut-être des choses à réfléchir pour d'autres pays comme le nôtre avec leurs immigrés.
Oui, puis là on parle effectivement de gens qui sont présents déjà depuis certains des années, d'autres depuis des décennies. Hein. Juste pour remarquer, par exemple, dans l'État de Californie, on peut très bien être clandestin mais passer son permis de conduire. Parce que bien sûr, hein, pour aller cueillir des oranges, etc., il faut pouvoir se déplacer.
Allez, pause musicale, qu'un quelconque rapport avec une certaine actualité, vous y retrouverez bien. C'est Banc Public qui chante Brassens, un document inédit.
Ils s'y refuseront avec entêtement. tranquillité. Qu'on me demande au moins si j'ai fait bonne pêche. Qu'on aime s'enquérir un peu de ma santé. Qu'on aime s'enquérir un peu de ma santé. De grâce un minimum d'attention délicate pour ce pauvre mari qu'on couvre de savon. Le cocu d'ordinaire, on le choie, on le gâte. On est enfin de compte un peu de ses parents. On est enfin de compte un peu de ses parents.
Public, en public à Besançon, il y a bientôt un an maintenant, c'est donc un inédit, sur Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce lundi 18 février 2013. Alors je ne sais pas si on va dire grand chose de plus sur la magouille de la viande dont on a déjà parlé. Il y a quand même une info qui m'a intéressé, ce que je voulais souligner, c'est que d'abord, Beauvais lui-même, quand on lui a dit « mais pourquoi on arrête cette entreprise, c'est peut-être pas judicieux de foutre au chômage 300 personnes », il a dit « mais il n'y a pas de problème, il n'y a qu'à créer une coopérative ». Et je souscris un petit peu à une telle idée, c'est-à-dire que dans une boîte comme ça, celui qu'il faut virer à coups de pompe dans les fesses, c'est le patron. Et peut-être ça tombe pas mal, parce que le patron, le savez-vous ou pas, c'est un encarté du MoDem, c'est le suppléant de la salle, donc c'est un homme de Bérou, des gens au-dessus de tout soupçon, alors que de toute évidence, c'est bien là que se faisait la magouille et le plus gros de la plus-value en changeant non pas le lot en vin, comme le faisait un certain Jésus, mais en changeant le cheval en bœuf. Voilà, on pourrait dire aussi beaucoup d'autres choses, si mes compagnons ont envie de commenter d'autres aspects de cette affaire, on peut le faire aussi, je sais pas. Robert, tu voulais
terminer ? Oui, peut-être. D'ailleurs, à l'heure où on fait les informations, je crois que une délégation de salariés, et puis accompagnée par, je crois, des experts en boucherie, hein, ça existe, des experts en boucherie, sont chez Hérault, ou plutôt chez les ministres, hein, je crois, ils sont chez Le Foll et chez Hamon pour faire le point. Et ce soir, on entend dire qu'une partie des activités pourrait redémarrer. Alors, je sais pas comment ça peut se traiter, ça. C'est sans doute pour rassurer les travailleurs, mais s'ils produisent des choses qui sont hors la loi et qui, dans d'autres cas, auraient pu être nocives à la santé, on voit pas pourquoi ils exigeraient que de redémarrer. Et puis, bon, ils ont crié, on veut notre mort. Ben, évidemment, c'est toujours embêtant de se retrouver au chômage, mais il faut quand même qu'ils élèvent un peu le débat. Sachant que, de toute façon, ils vont bénéficier du chômage technique. Je crois que là-dessus, l'accord sera vite fait avec Pôle emploi. On en parlera de Pôle emploi à propos d'autres affaires plus tristes, à mon avis.
Oui. Non, apparemment, ils auraient la possibilité de reprendre leur agrément concernant tout ce qui est mis en boîte, hein, notamment le cassoulet, les confits, etc., toute partie où il n'y a pas lieu de trouver du cheval, quoi, ou du bœuf. Donc toujours pas d'agrément donc pour manipuler du bœuf. C'est douteux.
Là-dessus, il y a un truc que j'avais dit. C'est marrant qu'on nous parle de bœuf. Alors, je me suis renseigné, il paraît qu'on parle de bœuf pour toutes les viandes bovines, quoi. Alors, quand on me dit bœuf, moi, j'imagine un beau charolais, là, de 600 kilos dans son pré. Mais en fait, le bœuf en question qu'on nous vend partout, c'est de la vieille vache, quoi. C'est des vaches de recyclage, hein, des vaches qu'on réforme, comme on dit, qui ont 4-5 ans. Seulement, évidemment, vieille vache sur les emballages de Fadus, ça ferait moins d'effet que bœuf, quoi. Ça aussi, ça fait partie des magouilles de l'industrie, de nous faire prendre les vaisseaux pour des lanternes.
Viande bovine, oui, l'expression viande bovine, ouais, tout ça passe en viande bovine.
Ouais. Ouais, oui. C'est souvent de la vieille vache. Là. Ouais. Bon, allez, autre sujet plus sérieux. Alors, le chou, oui, vas-y.
Dramatique, c'est ce suicide. De Jamel, ce suicide de Jamal à Nantes devant Pôle emploi, chômeur qui s'est trouvé pris dans les intrigues très compliquées des comptes d'indemnisation selon qu'on travaille quelques mois, quand on arrête de travailler quelques mois, ou finalement, beaucoup de chômeurs d'ailleurs ont compris que vous valez mieux pas travailler quelques mois parce que tout ça bloquait la machine, et puis les gens se retrouvaient finalement à ne pas profiter de la situation, au contraire de devoir rembourser souvent de l'argent que leur a versé Pôle emploi. Et donc, ce chômeur, cet ouvrier de 42 ans, avait annoncé que c'est vraiment la mise en scène, hein, la mise en scène au sens fort du terme. Il avait dit qu'il allait le faire, il avertit les gens, alors il l'a fait. C'est-à-dire un acte vraiment assumé avec une telle force de caractère et d'héroïsme que ça n'a pas effectivement... Bon, ça a amené quelques mots de compassion, tristes mots de compassion de Hollande, une émotion particulière, voilà. C'est peut-être la première fois qu'il emploie cette expression depuis qu'il est à l'Élysée. Voilà, alors pour ce chômeur et d'autres, parce que d'autres, il y a des tentatives de suicide par le feu, deux jours après, à Saint-Ouen. Bon, là aussi, un chômeur qui était en fin de droit. Lui, par contre, il va pas perdre la vie, parce qu'effectivement, il n'avait pas, on va dire... il n'avait pas pris ses précautions pour que son acte aille jusqu'au bout. Et puis deux autres personnes, je crois que c'est dans les Savoies et puis aussi en Bourgogne. C'est la grande crainte des pouvoirs publics. Valls, il craignait plutôt l'insurrection, mais ce qui va peut-être se passer, c'est l'insurrection par l'autodestruction des gens, et pour un État démocratique, socialiste, c'est peut-être encore pire que de devoir mater une révolte, parce que là ils n'ont plus de prise du tout, ils peuvent même plus donner les policiers pour arrêter, empêcher les gens de se suicider. C'est une affaire qu'on ne traite d'ailleurs plus, on l'a traité pendant quelques heures. Il y a eu une manifestation de soutien en hommage à Jamal, qui a réuni 200 personnes. Bon, sans vouloir faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être, mais on se souvient qu'un jeune chômeur en Tunisie s'est comme ça immolé, et on sait ce que ça a produit par la suite. Bon, là encore, on ne se livrera pas des comparaisons. Mais n'empêche qu'il y a aussi ces actes-là, et que c'est quand même un échec de la politique de Hollande, même si on ne pouvait pas tout attendre immédiatement de lui. Mais le social, chez Hollande, ça n'est pas... C'est du goutte à goutte, c'est quelque chose qui effectivement ne répond pas du tout. Et on lui demande depuis hier, tous les médias, et alors avec beaucoup de plaisir, les fameux experts en capitalisme bien gérés n'arrêtent pas de chercher les 4 ou 5 milliards qu'il faudra faire en économie supplémentaire pour présenter quelque chose de convenable à la commission de Bruxelles dont on parlait tout à l'heure, qui va, avec sa calculette, délivrer les bons et les mauvais points. Et
en face de ça, tu as entendu cette information que les 30...
commenter cette situation.
Tu as entendu cette information que 36 entreprises du CAC 40 payent seulement 3,3% de leurs impôts sur les bénéfices, donc grâce à un jeu de paradis fiscaux, d'implantation de filiales ou de maisons mères en paradis fiscaux. Et ces 3,3% de leurs bénéfices, ça représente des dizaines de milliards. Alors pourquoi Hollande veut-il aller chercher dans la poche des retraités, des allocations familiales, des précaires divers et variés quelques milliards, alors qu'il en a des dizaines à récupérer le plus légalement du monde chez les gros industriels français, quoi. Michel,
pour la bonne raison que c'est plus facile. Et de deux, c'est pour laisser donc les avantages concurrentiels à nos grandes entreprises de CAC 40 sur le marché mondial, puisque tout le monde pratique cette évasion fiscale, évasion fiscale, optimisation fiscale.
Optimisation, c'est le mot pudique.
Tout à fait, c'est ce que je cherchais. Donc,
c'est on pourrait dire la délocalisation fiscale.
Oui, tout à fait. Alors, dans un contexte de néolibéralisme, déréglementation qui a cours depuis 25-30 ans, on est à un point où l'État est faible face à des multinationales fortes qui se confortent, qui définissent des règles du jeu, et d'où maintenant la difficulté donc de chercher. Il faut vraiment un acte volontariste, et on sait que ça peut coûter, mais il faut que cet acte volontariste fasse écho et que les autres pays, parce que c'est plus au niveau d'un seul pays, malheureusement, de la France, mais quelqu'un doit se lancer malgré tout, qu'on peut faire changer les choses. Et d'où, effectivement, on le voit bien, on aurait pu espérer, enfin, quand je dis pas moi, j'espérais pas, hein, des pulls de la part des socialistes, pas de ces sociolibérales, mais on aurait pu espérer quand même une inflexion. Mais on voit bien que rien globalement ne change, on avalise la politique néolibérale européenne, et on continue donc à pratiquer une politique d'austérité qui touche donc les classes les plus populaires dans ce pays.
Voilà, donc il y a d'autres mesures, puisqu'on est en train de donner les lettres de cadrage, comme ils appellent ça, c'est-à-dire les dépenses autorisées à chacun des ministères, et qu'il faut récupérer des milliards sur les budgets initialement prévus. Il y a aussi la politique de la ville qui devrait moufter, puisqu'il est question de passer de 500 à 1000 quartiers aidés au lieu des 2500 actuels, dont un bon nombre, paraît-il, irait beaucoup mieux et n'aurait plus besoin d'aide. C'est pas du tout ce que pensent les travailleurs sociaux qui se démènent dans ces zones-là, mais enfin, c'est comme ça. Voilà.
Oui. Oui, et puis il y a effectivement cette idée de fiscaliser les allocations familiales et un peu plus encore les retraites. Et alors, c'est des personnages comme des gens de la Cour des comptes qui n'est pas du tout habilité. C'est pas elle qui fait la politique.
Mais ils sont élus par personne.
Voilà que ce personnage socialiste qui vraiment se croit tout permis s'appelle Migaud. Il a d'ailleurs été mis en place par la droite avec l'accord
Sarkozy.
Des socialistes à la tête de la Cour des comptes sous Sarkozy. Il y est resté après le changement politique, et aujourd'hui il s'autorise à pratiquement faire lui-même le budget de ce que devraient être les économies en France. Et c'est vraiment ce type-là, et il devrait être remis à sa place. On en trouve un autre. C'est pas son rôle, et surtout s'attaquer comme ça aux faibles ressources sociales. Alors on nous dit oui, mais on ne touchera que les grosses. On sait bien comment ça se passe. On fait semblant. On ne touche que ceux qui ont le plus d'intérêt avec les allocations familiales, c'est-à-dire ceux qui sont
les plus hauts revenus
au plafond. Mais en disant, et puis on essaiera par contre de ne pas pénaliser d'une part, mais même peut-être de donner un petit avantage à ceux qui touchent le moins en termes d'allocations de toutes sortes. Voilà. Mais on sait comment ça se termine, ce genre de discours.
Bon, peut-être on arrive vers 20h, il faut qu'on arrête un peu. Très peu d'infos culturelles, mais enfin, entre autres, une exposition à la mairie du 1er, là, à partir de ce soir, le vernissage était à 6h30, qui va se tenir une semaine seulement, et je crois que c'est le soir de 5h à 7h qu'elle est visible, cette expo, sur le thème sérigraphie et lutte des pentes, les pentes de la Croix-Rousse, donc une expo de papier art, de ses affiches sérigraphiées au fil des 30-40 dernières années qui ont pu être réalisées pour les luttes de la Croix-Rousse, entre autres celle de la montée de la Grande Côte. À vos jazz, le festival de Vaux-en-Velin, ça commence le mercredi 20 au CSMND. Il y a un spectacle de danse, le travail des élèves le mercredi 20 aussi. À l'École nationale de musique de Villeurbanne, c'est Pierre Gint qui est donné. Gérard Mémon sera le jeudi 21 aux Amphis, le cinéma de Vaux-en-Velin, avec son concert Entre chiens et loups. Ça commence à 19h30. Et puis à tout bout de champ, samedi Imbert, vendredi Lys Avril, les frères Labelle. Voilà pour ce Canu Info du lundi 18 février 2013, qui sera rediffusé demain matin à 8h et que vous pourrez réentendre sur Internet. Bonsoir.